Le désespéré, chapitre 10. Marche Noire était né désespéré. Son père, petit bourgeois crispé, employé au bureau de la recette générale de Périgueux, l'avait affublé, sur le conseil du vénérable de sa loge et par manière de défi, du nom de Caïn. À l'inexprimable effroi de sa mère, qui s'était empressée de le faire baptiser sous le vocable chrétien de Marie-Joseph. La volonté maternelle ayant été, par extraordinaire, la plus forte, on l'appela donc Joseph dans son enfance, et le nom maléfique, inscrit au registre de l'état civil, ne fut exhumé que plus tard, en des heures de mécontentement solennel. D'autres ont besoin des déconfitures ou des crimes de leur propre vie pour en sentir la nausée. Marche Noire, mieux doué, n'avait eu que la peine de venir au monde. Il était de ces êtres miraculeusement formés pour le malheur, qui ont l'air d'avoir passé 900 ans dans le ventre de leur mère avant de venir lamentablement traîner une enfance chenue dans la caduque société des hommes. Il fut orné, dès son premier jour, de la déplorable faculté, trop rare pour qu'on ait pu l'observer, de porter autour de son intelligence comme une brume de choses anciennes et indiscernables, comme un halo de rêveries antérieures, qui ne lui permirent longtemps qu'une vision réfractée du monde ambiant. Il eut le maillot réminiscent, si l'on veut concéder cette façon d'exprimer une chose naturellement indicible. Cette anormale disposition extatique, racontait-il, à 30 ans, ce prenant despotisme du rêve qui me faisait incapable de toute application, en me livrant à une perpétuelle stupeur, attira sur moi des tribulations et des épouvantes à défrayer un martyrologue d'enfant. Mon père, endurci par d'imbéciles préjugés sur l'éducation et résolument enfermé dans la forteresse inexpugnable d'un tout petit nombre d'idées absolues, ne voulut jamais voir en moi qu'un paresseux et m'assommait avec une fermeté lacédémonienne. Peut-être avait-il raison. Je suis même arrivé à me persuader que la culture intensive du roseau pensant est, en général, la résultante spirituelle d'un ascendant épidermique. Malheureusement, le pauvre homme stérilisait ses raclées en ne les faisant jamais suivre d'aucun retour de tendresse qui en eût intellectualisé la cuisson. Naturellement incliné à chérir, cet éducateur infortuné, nourri au râtelier de Plutarque, avait cru faire des miracles en prenant conseil de cette rosse antique, et refoulant son cœur, à lui, son moderne cœur scarifié par d'anachroniques immolations, il s'était infligé de n'avoir jamais une caresse de son enfant, dans le civique espoir de sauvegarder la majesté paternelle. Quand il me mit au lycée, ce fut un enfer. Hébété déjà par la crainte, méprisé des autres enfants dont la turbulence me faisait horreur, bafoué par d'ignobles cuistres qui m'offraient en risée à mes camarades, puni sans relâche et battu de toutes mains, je finis par tomber dans un taciturne dégoût de vivre qui me fit ressembler à un jeune idiot. Cette parfaite détresse, cette perpétuelle constriction du cœur, ordinairement dévolue aux enfants mélancoliques dans les pénitentiaires de l'université, s'aggravait pour moi de l'impossibilité de concevoir une condition terrestre qui fût moins atroce. Il me semblait être tombé, j'ignorais de quel empire, dans un amas infini d'ordures où les êtres humains m'apparaissaient comme de la vermine. Tel était, à 14 ans, et tel est encore aujourd'hui, ma conception de la société humaine. Un jour, cependant, je me révoltai, la malice de mes condisciples ayant dépassé je ne sais plus quelle borne. Je dérobai un couteau de réfectoire, heureusement inoffensif, et m'élançai, après une bravade emphatique, sur un groupe de 40 jeunes drôles, dont je blessai 2 ou 3. On me releva écumant, broyé de coups, superbe. Mon couteau avait fait peu de mal, à peine quelques écorchures. Mais mon père dut me retirer de l'abrutissant séjour et me garder à la maison. Chapitre 11. Marchenoir père, instruit par sa propre expérience du néant des espérances administratives, avait décidé de pousser son fils dans l'industrie. Les chemins de fer se construisaient alors partout avec fureur. Périgueux était précisément le foyer d'irradiation de ce réseau de lignes que la spéculation jeta comme un filet sur le centre de la France et qui s'appela, pour cette raison, le Grand Central d'Orléans. L'araignée industrielle, aujourd'hui repue et même crevée, avait fixé là son laboratoire et pompait les sucs financiers de beaucoup de provinces, naguère tranquilles, qu'elle avait promis d'enrichir. La frénésie californienne, la prostitution et le jobardisme civilisateur battaient leur plein. La vieille petite cité romaine, envahie par plusieurs armées d'ingénieurs poussiéreux et de limousins prolifiques, s'était accrue du double en quelques années, et menacée tout à l'heure de son inodante obésité, les montagnes, à hauteur d'appui qu'il avait contenu pendant 20 siècles. En conséquence, le besogneux employé de l'État avait formé le bouddhique vœu d'immerger le fils de ses secrètes ambitions déçues dans ce brame à poutre d'or. À ce point de vue, c'était sans doute un bien qu'il n'eût pas mordu aux humanités. Apparemment, l'estomac de son esprit n'avait été calculé que pour la digestion des mathématiques. Il s'agissait de le gaver sans retard de cet aliment nouveau. Le pauvre garçon n'y mordit pas davantage. L'hypothèse préliminaire, l'acte de foi primordial, planté comme un basilic sur le seuil de toute science naturelle, suffit pour éteindre, du premier coup, la timide flamme de curiosité que les pollicitantes exhortations de son père avaient paru allumer en lui. L'insuffisance de l'outillage cérébral chez le jeune Périgourdin éclata manifestement, dès qu'il fallut excogiter l'impossible roman d'une ligne conjecturale, problématiquement engendrée par copulation dubitable d'une multitude de points inexistants. Il fallut se résigner à de médiocres destins et devenir expéditionnaire, Cain Joseph. Désormais abandonné comme une lande inculte, livré à une tâche presque manuelle qui ne comprimait plus ses facultés, retourna de lui-même, par une pente insoupçonnée, aux premières études, dont il avait paru si prodigieusement incapable. Seul, presque sans effort, il apprit en 2 ans ce que le despotisme abêtissant de tous les pions de la terre n'aurait pu lui enseigner en un demi-siècle. Il se trouva soudainement rempli des lettres anciennes et commença de rêver un avenir littéraire. Au fait, que diable voulez-vous que puisse rêver aujourd'hui un adolescent que les disciplines modernes exaspèrent et que l'abjection commerciale fait vomir? Les croisades ne sont plus, ni les nobles aventures lointaines d'aucune sorte. Le globe entier est devenu raisonnable, et on est assuré de rencontrer un excrément anglais à toutes les intersections de l'infini. Il ne reste plus que l'art. Un art proscrit, il est vrai, méprisé, subalternisé, famélique, fugitif, guenilleux et catacombal. Mais quand même, c'est l'unique refuge pour quelques âmes altissimes condamnées à traîner leurs souffrantes carcasses dans les charogneux carrefours du monde. Le malheureux ne savait pas de quelle torture il faut payer l'indépendance de l'esprit. Personne, dans sa sotte province, n'eût été capable de l'en instruire, et l'ironique mépris de son père, résolument hostile à tout ambitieux dessein qu'il n'eût pas couvé lui-même, ne pouvait être qu'un stimulant de plus. D'ailleurs, il se croyait un cœur de martyr, capable de tout endurer. Un jour, donc, ayant, à force de démarches, obtenu à Paris le plus misérable des emplois, il s'en vint docilement agoniser, après 100 000 autres, dans cette ergastule de promission où l'on met à tremper la fleur humaine dans le pot de chambre de Circé. La hideuse goule des âmes, qui n'a qu'à les siffler pour qu'elles accourent à ces sales pieds des extrémités de la terre, une fois de plus, avait été obéie. Chapitre 12. Il avait 18 ans, une de ces physionomies rurales où le mufle atavique n'avait pas encore eu le temps de livrer sa dernière bataille à l'envahissante intelligence qui monta, bientôt, pour tout ennoblir des vallées intimes du cœur. Il tenait de sa mère, morte depuis longtemps, le ridicule romantique d'une origine espagnole, partagé d'ailleurs avec cette multitude de prêtres infâmes dont on peut lire les identiques forfaits dans la plupart des romans anticléricaux. Cette origine, à peine démentie par des yeux d'un bleu si naïf qu'il avait toujours l'air de s'en servir pour la première fois, était surabondamment attestée par l'extraordinaire énergie de tous les autres traits sans exception. Seulement, c'était l'énergie contemplative de ces amoureux de l'action héroïque qui n'estiment pas que l'action vulgaire vaille la dépense de l'autre énergie. Hirsute et noir, silencieux et avare de gestes, exécrateur victimaire du propos banal et de la rengaine, il portait sur l'extrémité de sa langue une catapulte pour lancer d'erratiques monosyllabes qui vous crevaient à l'instant même une conversation d'imbécile. Bouche close, narine vibrante, sourcils presque barrés et entrant l'un dans l'autre à la plus légère commotion, il avait parfois des colères muettes et blanches de séditieux comprimés qui eussent donné la colique à un éventrable despote. En ces rencontres, le cannibale sortait du rêveur, instantanément. Les yeux noyés et d'une tendresse presque enfantine, seul capable de tempérer l'habituel dureté de l'ensemble, changeait alors de couleur et devenait noir. Des années d'humiliation et de supplice tamisèrent peu à peu sur la friche de ce visage la fertilisante poudrette de quelques inévitables accommodements. Le teint, déjà bilieux, prit cette lividité brûlante d'un chrétien mal lapidé de la première heure, qui serait devenu sacristain dans les catacombes. Il avait le don des larmes, signe de prédestination, disent les mystiques. Ces larmes furent l'allégresse cachée, l'occulte trésor d'une des existences les plus dénuées et les plus tragiques de ce siècle. Quand il avait avalé une de ces couleuvres à dimension de boa de vin, qui furent si souvent son exclusive nourriture, il répandait autour de lui, dans sa chambre solitaire, avec des prudences d'avare, cette gemme liquide qu'il n'aurait pas échangée contre les consolations desséchantes d'une plus solide richesse. Car il avait l'étrangeté de chérir sa peine, cette incunable de mélancolie, qui était tombée dans son berceau, comme dans un barâtre, et que sa mère stupéfaite regardait pleurer des journées entières sur ses genoux, silencieusement. Il eut, tout enfant, la concupiscence de la douleur et la convoitise d'un paradis de torture, à la façon de sainte Madeleine de Pazzi. Cela ne résultait ni de l'éducation, ni du milieu, ni d'aucune lésion mentale, ainsi que d'oraculaires idiots entreprirent de l'expliquer. Cela ne tenait à aucune opération discernable de l'esprit naissant. C'était le tréfonds mystérieux d'une âme un peu moins inconsciente qu'une autre de son abîme, et naïvement enragée d'un absolu de sensation ou de sentiment qui correspondit à l'absolu de son entité. Quand le christianisme lui apparut, Marchenoir s'y précipita, comme les chameaux d'Éliézer à l'abreuvoir nuptial de Mésopotamie. Il était expirant de soif depuis si longtemps. Son incrédule père n'avait pas cru devoir s'opposer à ce semblant d'instruction religieuse que des simulacres de prêtres, empaillés de formules, tordent comme du linge sale de séminaire sur de jeunes fronts inintéressés. Il avait fait sa première communion sans malice et sans amour. Les deux seules facultés qui parussent vivantes en lui, les deux seules anses par lesquelles on put espérer de le saisir, la mémoire et l'imagination, avaient tout simplement reçu cette vague empreinte littérale du symbolisme chrétien que de sacrilèges entrepreneurs jugent suffisante pour être admis au bachot de l'Eucharistie. Aucun débitant de formule ne s'étant avisé de s'enquérir de son cœur, le pauvre enfant n'avait pu rien garder de ce pain mal cuit, et comme tant d'autres, l'avait revomi presque aussitôt, sur ce chemin verdoyant de la 15e année, où l'on voit rôder le grand lion à tête de porc de la puberté. Chapitre 13. Ce ne fut que beaucoup plus tard, après 10 ans d'un impur novicial dans les latrines de l'examen philosophique, étant déjà sur le point de prononcer de steck corerveux, qu'ayant parcouru pour la première fois le Nouveau Testament, durant l'oisive chaufferie de pied d'une nuit de grand garde, en 1870, il eut la perception immédiate, foudroyante, d'une révélation divine. Il s'est toujours rappelé le trouble immense, l'ahurissement surhumain de cette minute aux ailes d'aigle, qui l'enleva dans un ouragan d'ininterprétables délices. Il s'était dressé dans le sentiment nouveau d'une force inconnue, artères battantes et cœur en flamme. Ivre de certitude, secoué par le roulis d'une espérance mêlée d'angoisse, prêt à toutes les acceptations du martyr. Car cette âme divinatrice est synthétiquement ardente, bondissant au-dessus des intermédiaires leçons de la foi, s'était emportée du premier coup au décisif concept de l'immolation. Il lui sembla sortir d'un de ces rares songes aux déterminables contours qui feraient croire à quelque vision sensible de la conscience, réflexement manifestée dans l'extra-lucide intussusception des dormants. Il avait cru s'apparaître à lui-même, inimaginablement transmué pour se ressembler davantage, mais horrible, ruisselant d'abomination et triste par-delà toute hyperbole. Cette impression s'ajustait assez aux effrayantes scrutations inspirées de certains mystiques. À propos de l'enfer et de la paralysante affreuseté de l'irrévocable, dont la lecture déjà ancienne avait laissé sur sa mémoire comme des brûlures d'enthousiasme et des ecchymoses de poésie. Un double abîme s'ouvrit en cet être, à dater de ce prodigieux instant. Abîme de désir et de fureur que rien ne devait plus combler. Ici, la gloire essentielle inaccessible. Là, l'ondoyante muflerie humaine inexterminable. Chute infinie des deux côtés. Ratage simultané de l'amour et de la justice. L'enfer sans contrepoids. Rien que l'enfer. Le christianisme lui donnait sa parole d'honneur de l'éternité bienheureuse. Mais à quel prix? Il la comprenait maintenant, cette fringale de supplice de toute son enfance. C'était le pressentiment de la face épouvantable de son Christ, face de crucifié et face de juge sur l'impassible fronton du tétragramme. Les misérables se tordent et meurent depuis 2000 ans devant cette inexorable énigme de la promesse d'un règne de Dieu qu'il faut toujours demander et qui jamais n'arrive. Quand telles choses commenceront, est-il dit, sachez que votre rédemption approche. Et combien de centaines de millions d'êtres humains ont enduré la vie et la mort sans avoir rien vu commencer? Marche Noire considérait cette levée d'innombrables bras perpétuellement suppliants et perpétuellement inexaucés, et il comprit que c'était là le plus énorme de tous les miracles. « Voilà 19 siècles, pensa-t-il, que cela dure. Cette demande sans réponse d'un père qui règne in terra et qui délivre. Il faut que le genre humain soit terriblement constant pour ne s'être pas encore lassé et pour ne s'être pas assis dans la caverne de l'absolu désespoir. » Il conclut au conditionnel désespoir des millénaires. Il avait senti passer l'amour spirituel, absolu. Il avait, lui aussi, comme tous les autres, répandu son cœur dans cet infidèle crible de l'oraison dominicale, et il avait été saturé de la joie parfaite. Il y avait donc quelque chose sous cet amas de sépultures, sous cette maladette de cœur souffrant, en poussière, au fond de ce gouffre du silence de Dieu. Un principe quelconque de résurrection, de justice, de triomphe futur. À force d'amoureuse foi, il se fit de l'éternité palpitante avec une poignée de temps pétrie dans sa main et se fabriqua de l'espérance avec le plus amer pessimisme. Il se persuada qu'on avait affaire à un Seigneur Dieu volontairement eunuque, infécond par décret, lié, cloué, expirant dans l'inscrutable réalité de son essence, comme il l'avait été symboliquement et visiblement dans la sanglante aventure de son hypostase. Il eut l'intuition d'une sorte d'impuissance divine, provisoirement concertée entre la miséricorde et la justice, en vue de quelque ineffable récupération de substance dilapidée par l'amour. Situation inouïe, invocatrice d'un patois abject. La raison ternaire suspend ses paiements depuis un tas de siècles, et c'est à la patience humaine qu'il convient de l'assister de son propre fond. Ce n'est que du temps qu'il faut au solvable maître de l'éternité, et le temps est fait de la désolation des hommes. C'est pourquoi les saints et les docteurs de la foi ont toujours enseigné la nécessité de souffrir pour Dieu. Le brûlant néophyte, ayant deviné ces choses, arracha l'épine de son pied boiteux de catholique arrivé si tard, et, se ruant à la douleur, en fit un glaive qu'il s'enfonça dans les entrailles après s'être crevé les yeux. Plus que jamais, il fut un désespéré, mais un de ces désespérés sublimes qui jettent leur cœur dans le ciel, comme un naufragé lancerait toute sa fortune dans l'océan pour ne pas sombrer tout à fait, avant d'avoir au moins entrevu le rivage. D'ailleurs, il regardait comme fort prochaine la catastrophe de la séculaire farce tragique de l'homme. Certaines idées étonnantes qui lui vinrent sur l'histoire universelle, et qu'il déroula jusqu'à leurs plus extrêmes conséquences, lui faisaient conjecturer, avec une autorité d'exégèse quasi prophétique, l'imminent accomplissement des scripturales vaticinations. L'exaltation des humbles, l'essuiement des larmes, la béatitude des pauvres et des maudits, la préséance paradisiaque des voleurs et le couronnement réginal des prostituées, enfin cette venue si solennellement annoncée d'un paraclet libérateur, tout ce que la fratricide surdité des argousins de la tradition a conspué, tout ce qui empêche les orphelins et les captifs de mourir d'horreur. Il ne croyait pas possible qu'on l'attendît longtemps encore, et il donnait ses raisons. Mais les seuls crevants de faim étaient dans la confidence, non par crainte qu'on le jugeât ridicule ou insensé. À cet égard, il n'avait plus rien à gagner ni à perdre depuis longtemps, mais par l'horreur de la bienveillance viscérale des digérants heureux qui l'eussent écouté. Chapitre 14. Telle fut la doctrine de Marche Noire. Doctrine qui ne le séparait pas du catholicisme, puisque l'Église romaine a tout permis de ce qui n'altère pas le canonique symbole de Nicée. mais jugée singulièrement audacieuse par les vendeurs de contre-marques célestes qui vociférèrent le boniment sulpicien sur le trottoir fangeux des consciences. Un croyant qui voulait contraindre les regrattiers du salut à reposer devant lui leurs marchandises, et que l'orgueil chrétien révoltait plus que le pharisaïsme crucificateur de la Torah, ne pouvait pas se faire beaucoup d'amis dans le sacerdoce. Ils n'ont pu trouver qu'un seul, un prêtre doux et humble, à la manière de cette émule ignorée de saint Vincent de Paul, que le peuple de Paris nommait le pauvre prêtre, et qui, un jour, pressé par le tout-puissant cardinal de Richelieu de lui demander quelque importante faveur, lui fit cette simple réponse. « Monseigneur, veuillez donner des ordres pour qu'on remette des planches neuves à la charrette qui porte les condamnés à mort au lieu de leur supplice, afin que la crainte de « tomber en chemin » ne les détourne pas de recommander leur âme à Dieu. » Marchenoir eut l'inespérée fortune de dénicher un prêtre de cette sorte. Mais ce fut pour très peu de temps. En général, le clergé français n'aime pas les saints, ni les apôtres. Il ne vénère que ceux qui sont morts depuis longtemps et en poussière. Rejetant ligneux de la vieille souche gallicane et légataire de son coriace orgueil, il abhorre par-dessus tout la supériorité de l'esprit, naturellement incompressible comme l'eau du ciel, et par conséquent dangereuse pour l'équilibre sacerdotal. L'abbé T était mort à la peine, peu de temps après la rencontre du Périgourdin. Écarté soigneusement de toutes les chaires où ses rares facultés de prédicateur apostolique eussent pu servir à quelque chose, navré du cloaque de bêtises où il voyait le monde catholique s'engouffrer, abattu par le chagrin au pied de l'autel, il avait à peine eu le temps d'ensemencer ce vivipare dont la monstrueuse fécondité immédiate eût peut-être suffi pour le faire expirer d'effroi. Il est certain que Marchenoir tenait de lui le meilleur de ce qu'il possédait intellectuellement. Le défunt lui avait transmis d'abstruses méthodes d'interprétation sacrée qui devinrent aussitôt une algèbre universelle dans le miroir ardent de cet esprit concentrateur. L'élève, plus robuste que le maître, avait violemment répercuté du premier coup, dans toutes les directions imaginables, l'ésotérisme brûlant d'un intégral de beauté divine, que le timide apôtre, de nature moins incendiaire, se bornait à convoiter avec la douceur résignée d'un saint. Marchenoir accomplit ce prodige de dépasser toutes les audaces d'investigation ou de conjecture, sans oblitérer en lui la soumission filiale à l'autorité souveraine de l'Église. Ce poulain sauvage, affronteur de gouffres, ne cassa pas son licol et resta dans le brancard. Seulement, il avait réussi de telles escalades que la société catholique contemporaine ne pouvait plus avoir pour lui le moindre prestige. L'obéissance fut un décret de sa raison, un hommage tout militaire et de pure consigne aux eunuques du sérail de la parole. Il ne fallait pas lui en demander davantage. Le « sel de la terre », pour employer le saint texte liturgiquement adopté dans le commun des docteurs, il le voyait dénué de saveur, incapable de saler même une tranche de cochon, gravier sédimentaire bon tout au plus à sablonner de vieilles bouteilles ou à ressuyer les allées d'un parc mondain sous les vastes pieds du dédaigneux larbin de madame. Investi des plus transcendantes conceptions, il considérait avec d'horrifiques épouvantements ce collège œcuménique de l'apostolat, cette cléricature fameuse qui avait été réellement la lumière du monde. Si formidable encore que la dérision ne peut l'atteindre sans rejaillir sur Dieu comme une tempête de fange. Devenu pourtant le décrotoir des peuples et le tapis de pied des hippopotames. Il se disait que c'était justice, cela, et que la grande prévarication sacerdotale allait sans doute recommencer, puisqu'on revenait à l'obduration et à l'enflure théologique de la synagogue. avec l'aggravation pour les seuls bourreaux, cette fois, de l'universel mépris. De l'ignominie du christianisme naissant à l'ignominie du catholicisme expirant, la translation s'achevait enfin dans ce char de gloire qui avait roulé 19 siècles par toute la terre. Le Seigneur n'avait plus qu'à se montrer. Les pasteurs des âmes allaient lui régler son compte, plus sûrement encore que les princes des prêtres et les pharisiens de l'ancienne loi, qui ne surent ce qu'ils faisaient, dit l'Évangile. Émasculation systématique de l'enthousiasme religieux par médiocrité d'alimentation spirituelle. Haine sans merci, haine punique à l'imagination, à l'invention, à la fantaisie, à l'originalité, à toutes les indépendances du talent. Congénère et concomitant oubli absolu du précepte d'évangéliser les pauvres. Enfin, adhésion gastrique et abdominale à la plus répugnante boue devant la face des puissants du siècle. Tels sont les pustules et les champignons empoisonnés de ce grand corps, autrefois si pur. Marche Noire collait l'oreille à toutes les portes de son enfer pour entendre venir ce Dieu que ses propres domestiques allaient massacrer. Chapitre 15. Il avait peu de consolation à espérer des chrétiens laïcs. Ils sont faits à l'image de leur pasteur, et c'est tout ce qu'on en peut dire. Ici, comme là, l'innocence est presque toujours imbécile, hélas, quand elle n'est pas faisandée. Les hardiesses viriles de sa foi et les indignations trop éloquentes de sa probité religieuse révoltèrent au début ce lanigère troupeau qui s'en va paissant sous des houlettes paroissiales au mugissement automatique des petites cataractes dominicaines. D'ailleurs, il était pauvre et par conséquent élagable. Il vécut seul dans le voisinage d'un unique ami, à peine moins indigent, qui le sauva de la mort 15 ou 20 fois. Les 10 années antérieures à sa conversion avaient été faites à la ressemblance de toutes les années d'adolescent pauvre, niais, timide, ambitieux, mélancolique, misanthropique, épiphonémique et brutal. Mais il avait apporté de sa province, en excédant de ce commun bagage, le particulier viatique d'impuissance que j'ai dit plus haut. Ce sempiternel rêveur ne pouvait voir les choses telles qu'elles étaient, et il n'y eut peut-être jamais un homme d'aussi peu de ressources et moins ambidextre pour s'emparer du toupet de l'occasion. Son auge unique, l'emploi de copiste qui avait été le prétexte et le moyen de son embauchage pour la lutte parisienne, à laquelle il était si merveilleusement impropre, il le perdit au bout de quelques mois. Son chef de bureau, vieillard adipeux et favorable, mais plein de principes et sans faiblesse, lui révéla un jour que l'administration ne le payait pas pour ne rien faire, et le mit tranquillement à la porte, avec une dignité incroyable. Ce fut la misère classique et archiconnue, tant de fois explorée et décrite. Le pauvre garçon n'était bon absolument à rien. Il était de ces fruits sauvages, d'une âpreté terrible, que la cuisson même n'édulcore pas, et qui ont besoin de mûrir longtemps sur la paille, ainsi que Balzac l'a judicieusement observé dans son âge mûr. Il a fait plus tard ce calcul, basé sur d'approximatives défalcations, qu'il avait passé alors 8 années entières sur 10 sans prendre aucune nourriture ni porter aucune sorte de vêtement. Successivement évincé de toutes les industries et de tous les trucs suggérés par l'ambition de subsister, il se vit réduit à condescendre aux plus linéamentaires expédients. Ramasseur diurne et noctambule investigateur, il s'acharna faméliquement à la recherche de tout ce qui peut être glané ou picoré, dans les mornes steppes de l'égoïsme universel, par le besoin le plus fléchisseur, en vue d'apaiser l'intestinale vocifération. Forcé d'ajourner indéfiniment son éclosion littéraire, il enfouit sa précieuse tête sous les décombres de ses illusions et s'en alla se ronger le cœur dans les carrefours de l'indifférence. Cette époque de ténèbres a été le Moyen-Âge de mon ère, disait-il au lendemain de sa renaissance chrétienne. Les lettres, il est vrai, n'y perdaient pas grand-chose. Cet esprit, noué comme un cep, condamné à se chercher et à s'attendre bien longtemps, ne devait se développer, littérairement, que fort tard, sous un arrosage emphytéotique de pleurs. Les bibliothèques publiques étant devenues pour lui l'habituel refuge, il y connut cet ami déjà mentionné, le seul qu'il ait jamais eu. C'était un doux maniaque d'histoire ecclésiastique et de monographie pontificale, âme sereine et peu croyante, en tout l'opposé de Marchenoir. Privé de fortune, comme il convient aux lapicides de l'érudition, ce documentaire vivait besogneusement d'un grisâtre bulletin bibliographique dans une grande revue. À ce titre, il voyait passer chez lui le torrent des livres lancés sur le monde par la sottise ou la vanité contemporaine. Providentiellement, il y avait menace de déluge vers le temps où il commença de s'intéresser à ce vagabond, qui avait l'air de marcher dans une gloire de misère et dont la physionomie douloureuse lui parut extraordinaire. Un jour, donc, ému de compassion, il le fit dîner et l'emmena chez lui, pour qu'il le débarrassât, disait-il, de ce monceau de brochures dont la vente seule pouvait être utile. C'est à dater de ce bienheureux instant que Marchenoir s'élança dans la carrière enviée d'ami du critique, la seule que, durant une assez longue période, on l'ait vu exercer avec avantage. Mais, surtout, il eut un ami, enfin, un ami fidèle. Medicamentum vitae et immortalitatis, prononce mystérieusement le Saint-Livre, comme si la véritable amitié pesait les milliards de mondes qu'il faut pour contrebalancer la miette de pain transubstantiée que ces expressions rappellent. Chapitre 16. La femme n'apparut dans la vie de Marchenoir qu'à la fin de cette première période, c'est-à-dire après la guerre, et après cette décisive secousse d'âme qu'il avait subitement restituée aux sentiments religieux dont il portait en lui, dès son premier jour, les prédéterminations ignorées. Auparavant, il avait été chaste à la manière des prisonniers et des matelots, lesquels ne voient ordinairement dans l'amour qu'une désirable friction malpropre en l'obscurité de couteaux repères. Tantale stoïque d'un festin d'ordures, il s'était résigné, comme il avait pu, à la privation des inespérables immondices. D'un côté, le dénuement absolu. De l'autre, la timidité la plus incroyable chez un tel violent, le préservèrent plus efficacement que la religion même, quand elle intervint pour lui amollir le cœur. Les hauts penseurs, qui décrètent professionnellement le balayage de toute notion religieuse, ont cette amusante contradiction d'exiger que les chrétiens, dont la foi résiste à leur récurage et à leur potasse, soient au moins des saints. Surtout, ils les veulent purs. Ils leur disent des choses aussi robustes que ceci. Vous péchez, donc vous êtes des hypocrites. Antimème lacustre d'une autorité certaine sur les palmes et les squames du marécage antireligieux. Ce ne serait pas encore trop bête s'il ne s'agissait ici, pour l'âme pensante, livrée aux dévorants invisibles, que d'un combat très difficile où l'héroïsme continuel fut de rigueur. Après tout, c'est une politique judicieuse et barbue comme l'expérience même, d'empiler sur les épaules d'autrui d'écrasants fardeaux qu'on ne voudrait pas seulement remuer du bout des doigts. Mais le sentiment religieux est une passion d'amour, et voilà ce qu'ils ne comprendront jamais, ces pédagogues de notre dernière enfance, quand il pleuvrait des clés de lumière pour leur ouvrir l'entendement. Or, ce tison incendiaire, lancé tout à coup, du plus inaccessible des sommets, dans le misérable torchis humain, au travers du chaume défoncé, il serait pourtant nécessaire d'en tenir compte si l'on voulait être raisonnable et juste à la fin des fins. Marche Noire était, plus qu'aucun autre, une conquête de l'amour, et son cœur avait été l'évangéliste de sa raison. Les châtiments et les récompenses du prône, par lesquels on explique si bassement les plus désintéressés transports, n'avaient été pour rien dans son exode spirituel. Il s'était rué sur Dieu comme sur une proie, aussitôt que Dieu s'était montré, avec la rudimentaire spontanéité de l'instinct. Alors, comme si sa destinée se fût accomplie à cet instant, une soudaine et corrélative révélation s'était faite, en cet élu de la douleur, de sa propre puissance affective, jusqu'alors inconnue de lui-même, enveloppée et flottante dans l'amnios. Une surprenante avidité de tendresse humaine fut l'accompagnement immédiat des surnaturelles appétences de ce vierge cœur. Du premier coup, sans avoir passé par le cloaque des intermédiaires impressions cupidiques, il se trouva prêt pour la grande tribulation passionnelle. Tout ce que la misère et les défiances d'un rétractile orgueil avaient jusque-là comprimé fit explosion. L'ignorance, les niaises pudeurs, les crédulités jobardes, les lyriques éruptions, les attendrissements dangereux, le besoin subi de se fendre l'âme du haut en bas, au milieu du hennissement sexuel, enfin, tout le déballage coquebin d'un chérubinisme attardé et grandiloque. Éternelle dilapidation des mêmes trésors pour aboutir à l'empyreum fatal de la passion satisfaite. Cet éphèbe de 28 ans, sourcilleux et mal vêtu, qui portait son cœur comme un hanneton dans une lanterne et dont le redoutable esprit, semblable à la fleur détonnante du cactus, commençait à peine à se retirer sous ses membraneuses enveloppes, était une proie trop facile pour que de passantes curiosités libertines ne s'en emparassent pas. Marche Noire fit de l'amour extatique dans des lits de boue, avec une conscience dilacérée, en se vomissant lui-même, à l'instar de ces anachorètes pulvérulents de l'ancienne Égypte, que l'aiguillon de la chair contraignait parfois à venir secouer leurs carcasses mortifiées dans d'impures villes, et qui s'enfuyaient ensuite, gavées d'horreur. Plus coupable encore, cet assidu relapse d'incontinence laissait mijoter son vomissement de chien de la Bible en prévision des lâches retours. Écartelé à Dieu et aux femmes, navré du perpétuel fiasco des héroïques puretés qu'il avait rêvées, également incapable de s'asseoir dans un granitique parti pris de paillarder impavidement et d'exterminer le bouc intérieur qui renaissait jusque sous le couteau des holocaustes pénitentiels, il se vit souffleté par l'imperturbable nature, juste autant de fois qu'il avait prématurément espéré de la dompter. Lâche pénitent, sans aucun doute, mais vergogneux et humilié. Il avouait du moins sa détresse et ne cadenassait pas exclusivement son ignominie dans le coffre-fort des confessionnaux et des tabernacles. Il eût été difficile de rencontrer un fornicateur plus éloigné de l'hypocrisie ou de la plus légère velléité de contentement de lui-même. Il faut le redire, cet adolescent ne ressemblait à aucun autre. Il était né pour le désespoir, et le christianisme dérangea sa vie en le remplissant, si tard, de l'afflictive famine d'amour, surajoutée à l'autre famine. À moins d'un miracle que Dieu ne fit pas, comment cet ébloui de la face du Seigneur, Icare mystique aux ailes fondantes, aurait-il pu échapper au vertige qui l'aspirait vers les argileuses créatures conditionnées à cette ressemblance? Il serait évidemment insensé d'espérer que des contemporains de M. Zola, par exemple, auront la bonté de concéder ces prolégomènes enfantins de la très rare grandeur morale qui va être racontée. la déliquescente psychologie littéraire de cette fin de siècle n'acceptera pas non plus que d'aussi peu perverses prémices puissent jamais engendrer une concluante délectation esthétique. Enfin et surtout, la porcine congrégation des sycophantes de la libre pensée pourra s'accorder le facile triomphe de contempler, jusqu'au fientement vertical, l'exacte genèse de ce catholique, ballotté par d'impures vagues au-dessus d'absurdes abîmes. Qu'importe ? Chapitre 17. Marchenoir pleurait auprès du corps de son père lorsqu'il reçut à la fois deux lettres de Paris, celle de Dulaurier et une autre de son ami le bibliographe. Il ouvrit aussitôt cette dernière. « Mon affligé, voici 500 francs que j'ai pu réunir en tricotant activement de mes deux jambes de derrière depuis ton départ et que je t'adresse avec une joie infinie. Pas de remerciements surtout, n'est-ce pas ? Tu sais si je les méprise. Cher cœur souffrant, ne te laisse pas dévorer par ton chagrin. Tu as ton livre à faire. Tu as de grandes choses à dire à certaines âmes à qui personne ne parle plus. Relève-toi. Je n'ai pas d'autres paroles de consolation à t'offrir. Ton infortuné père, que tu n'as pas plus tué que je n'ai tué le mien, a beaucoup plus besoin à cette heure de tes suffrages actifs que de tes larmes. Tu dois, ce me semble, comprendre ce langage. Tu ne m'as pas écrit, naturellement, et je n'y comptais guère, malgré ta promesse. Mais en revanche, tu as écrit à Dulaurier pour lui demander de l'argent, comme si je n'existais pas, moi. Je l'ai rencontré aujourd'hui même, alors que j'étais en course précisément pour t'en procurer, et il m'a tout appris. Tu es un traître, mon pauvre Caïn, et un imbécile par-dessus le marché. Comment pouvais-tu espérer que ce fantoche de l'être, cet harpagon dandy, se porterait volontiers à te secourir ? Est-ce que par hasard tu tomberais dans le gâtisme définitif de supposer que cette reliure, soi-disant pensante, de tous les lieux communs et de toutes les inanités clichés, puisse être capable d'entrevoir seulement l'immense honneur que tu lui fais en l'implorant? C'est par trop idiot, et si tu n'étais pas si malheureux, je t'assommerais d'injures. Il m'a joué tous les airs de sa mandoline, le misérable. Il s'est attendri, comme toujours, sur tes chagrins, sur ta malchance littéraire, etc. Puis, prenant mon silence pour une approbation de tout ce qu'il lui plairait de me faire entendre, cet eunuque, pour qui le fanatisme consiste à dire oui ou non sur n'importe quoi, a parlé une fois de plus de ton intolérance si regrettable et de ton injuste rage de dénigrement. Il m'a donné sa parole d'honneur que tes absurdes principes étaient incompatibles avec l'idée qu'on pouvait se faire d'une tête sagement équilibrée, et qu'ainsi tu n'arriverais jamais à rien. Au fond, il te redoute terriblement et voudrait bien que tu restasses à Périgueux. J'ai parfaitement senti qu'il tenait surtout à se justifier par avance du soupçon de ladrerie. Il paraît qu'il a poussé le zèle de l'amitié jusqu'à s'en aller demander pour toi l'aumône à Desbois, qui s'est fendu de quelques pièces de 100 sous, à ce que j'ai pu comprendre. Ça ne doit pas être gros. Une bien jolie pratique, celui-là encore. J'espère bien que tu vas leur renvoyer immédiatement leur sale monnaie. Ce Dulaurier a eu un mouvement admirable. « Voulez-vous prendre ma montre » m'a-t-il dit d'une voix mourante. « Vous la porteriez au Mont-de-Piété et vous enverriez l'argent à ce malheureux. » Moi, toujours silencieux, je regardais l'oignon monter et descendre dans le gousset, puis finalement disparaître, comme un pauvre cœur qu'on dédaigne. Cela tournait au Palais-Royal. Cette oblation grotesque me rappela néanmoins que l'heure galopait. Je me hâtai de le féliciter sur son ruban rouge et sur le prix de 5 000 francs qu'on vient de lui décerner, en le suppliant avec douceur de vouloir bien épandre désormais sa protection sur quelques écrivains supérieurs que je lui nommais et que les récompenses n'atteignent jamais. Il m'a regardé alors avec des yeux de merlan au gratin et s'est immédiatement fait disparaître. J'espère que m'en voilà débarrassé pour quelque temps. Maintenant, très cher, pleure à ton aise, tant que tu pourras, en une seule fois, et quand ce sera bien fini, fais ce que je vais te dire. Va-t'en à la grande chartreuse et demande l'hospitalité pour un mois. Je connais ces excellents religieux. Confie-leur tes idées, tes projets. Ils te feront la vie douce, si tu sais leur plaire. Ils ne te laisseront pas revenir à Paris sans ressources. N'hésite pas. Ne délibère pas. Je sais ce que je te dis. Je vais même écrire au Père Général pour t'annoncer et te présenter. On te synapisera le cœur sur cette montagne, et tu pourras ensuite reprendre la lutte avec une vigueur nouvelle qui déconcertera plusieurs sages. Ne t'inquiète pas au sujet de ta Véronique. La bonne fille s'extermine à prier pour toi 18 heures par jour. Tu peux te flatter d'être aimée d'une bien extraordinaire façon. Sa hâte de te revoir est extrême, mais elle comprend que je te donne un bon conseil en t'envoyant à la chartreuse. Rien à craindre pour le pot-au-feu. Je suis là, et tu dois un peu me connaître, n'est-ce pas? Je te serre dans mes bras. Georges Leverdier. Chapitre 18. Ce Georges Leverdier, à peine connu dans le monde des lettres, était bien en réalité le seul homme sur lequel Marchenoir put compter. L'avare destinée ne lui avait donné que cet ami, et encore, elle l'avait choisi pauvre, comme pour empoisonner le bienfait. Il faut l'expérience de la misère pour connaître l'affreuse dérision d'un sentiment exquis frappé d'impuissance. La crucifiante blague archaïque sur les consolations lambrissées et trimalcionnes de l'amour dans l'indigence ne paraît pas une ironie moins insupportable quand il s'agit de la simple amitié. C'est peut-être la plus énorme des douleurs et la plus suggestive de l'enfer que cette nécessité quotidienne d'éluder le réciproque secours qui s'achèterait quelquefois au prix de la vie. Si l'infâme vie du pauvre pouvait jamais avoir le poids d'une rançon. Leverdier, passionné pour Marchenoir, qu'il regardait comme un homme du plus rare génie et dont il s'honorait d'être l'inventeur, avait réalisé des prodiges de dévouement. Il se comptait pour rien devant lui et ne s'estimait qu'à la mesure des services qu'il pouvait lui rendre. Il l'avait connu en 1869, il y avait déjà 14 ans, alors que la supériorité hivernale de son étonnant ami ne donnait encore aucun signe de maturité prochaine. Mais il l'avait fort bien démêlé sous la gourmande frondaison de chimères et de préjugés qui en retardaient le développement. Il avait même, en horticulteur plein de diligence, pratiqué d'un sécateur tremblant quelques émondages respectueux. Marchenoir était un peu son œuvre. Naturellement froid et peu enthousiaste pour cent, cet original critique avait livré son âme en esclavage pour cette galatée d'airain qui aurait lassé la ferveur d'un Pygmalion moins intellectuel. Cette donation de tout son être avait été jusqu'au célibat volontaire. La piété de ce séide ne lui permettant pas de reculer devant aucune immolation avantageuse pour son prophète. Il est vrai que celui-ci lui avait à peu près sauvé la vie pendant la guerre. Il faisait partie du même bataillon de francs-tireurs, et dans l'effroyable sauve-qui-peut de la retraite du Mans, le chétif Leverdier, épuisé de fatigue et tordu par le froid, serait peut-être mort sur la neige, au milieu de l'indifférence universelle, si son compagnon, doué d'une vigueur extraordinaire, ne l'eût porté dans ses bras pendant plus de 2 lieues, et n'eût enfin réussi, par supplications et menaces, à le faire admettre dans une charrette quelconque dont il faillit égorger le conducteur. Aussi, Leverdier ne pouvait s'absoudre de n'être pas millionnaire. Volontiers, il s'accusait de sa pauvreté comme d'une trahison. « Je déteste l'argent pour lui-même, disait-il, mais je devrais être un sac d'écus sous la main de Marchenoir. J'aurais ainsi une excuse plausible d'encombrer sa voie. » Et cependant, il n'était guère assuré d'un futur triomphe. Sa pensée, fort enflammée quand elle se fixait sur son amie, redevenait singulièrement lucide et froide quand il l'abaissait sur le public contemporain. L'espérance d'un avenir moins sombre était chez lui en raison inverse de la hauteur de génie qu'il supposait, et ce calcul n'allait pas sans déchirement. Marche Noire, son aîné de quelques mois, venait d'entrer dans sa 41e année. Il avait publié déjà 2 livres, jugés de premier ordre, et la gloire aux mains pleines d'or ne venait pas. Elle se prostituait dans les pissotières du journalisme. Le Verdier avait fait des démarches inouïes auprès des directeurs et rédacteurs en chef, qui se refusèrent toujours au lancement d'un écrivain dont l'indépendance révoltait leur abjection. Celui-ci, d'ailleurs, ne leur avait jamais caché son absolu dégoût. Littéralement, il les déféquait. Il laissait agir son fidèle esclave pour qu'on ne lui reprochât pas de refuser absolument de céder lui-même. Mais il se serait fait couper tous les membres avec des cisailles de tondeur de jument et scié entre 2 planches à bouteilles longtemps savonnées par un maniaque centenaire ivre depuis 3 jours, avant de consentir à une démarche personnelle en vue de recueillir, de leurs nidoreuses mains, un quartier de cette charogne archi-putréfiée dont ils sont les souteneurs et qu'ils vendent pour de la vraie gloire. On ne pouvait raisonnablement pronostiquer un succès beaucoup plus éclatant à la nouvelle œuvre qui se préparait. Marche Noire allait toujours s'exaspérant dans sa forme déchaînée, qui rappelait l'invective surhumaine des sacrés prophètes. Il se faisait de plus en plus torrentiel et rompeur de ligues. Le Verdier, qui l'admirait précisément à cause de cela, ne pouvait cependant se dissimuler qu'on allait ainsi à d'inévitables catastrophes. Il avait fini par en prendre son parti et s'était fait le résigné pilote de la tempête et du désespoir. Chapitre 19. La munificence de Le Verdier consterna Marche Noire sans le surprendre. Depuis longtemps, il était habitué à ces merveilles de dévouement qui le bourrelaient d'inquiétude. Il ne s'était pas adressé à lui, le sachant fort gêné et capable néanmoins de s'écorcher vif et de se tanner sa propre peau, s'il eût fallu pour lui procurer un peu d'argent. Quoique l'égoïsme affectueux et l'élégante sordidité de Dulaurier lui fussent parfaitement connus, il avait espéré que, pour cette fois, du moins, il n'oserait se dérober, et que l'exceptionnelle monstruosité d'un tel refus l'épouvanterait par ses conséquences possibles. Il n'avait pas prévu le truc du docteur. Il mit un moment les 2 lettres sur le visage du mort, comme pour le faire juge, puis il alla s'occuper des préparatifs funèbres, non sans avoir cacheté avec soin, sous une vierge enveloppe, le billet de 100 francs de Dulaurier qu'il lui renvoya, le soir même, sans un seul mot. Il avait terriblement besoin d'une impression qui le protégeât contre les dévouements de sa pensée, et le message de son ami lui fut de toute manière une délivrance. Son père était mort sans le reconnaître, ou, ce qui revenait au même, sans témoigner par aucun signe qu'il le reconnût. Le silence de plusieurs années de séparation et de mécontentement n'avait pas été interrompu, même à ce suprême instant. Les 2 dernières heures de l'agonie, il les avait passées auprès du moribond, agenouillé, pénitent, plein de prières, portant son cœur, comme un calice, dans ses mains tremblantes, pour qu'une parole, un regard ou seulement un geste de pardon y tomba. Le mystère de la mort était entré, sans prendre conseil, et s'était assis entre eux sur son trône d'énigmes. Cette reine de Saba, qui pérambule sans cesse avec ses effrayants trésors de devinailles, Marche Noire la connaissait bien. Il l'avait appelée en de néfastes heures, et elle était venue frapper à côté de lui, tellement près qu'il en avait adoré le souffle et bu la sueur. Il lui en était resté comme un goût de pourriture et de crevasse au cœur. Mais cette fois, il lui semblait avoir été mieux atteint. Il se découvrait une palpitation filiale ignorée, et cet arrachement, nouveau, après tant d'autres, lui parut une légion énorme, hors de proportion avec le reliquat d'énergie qu'on lui laissait pour le supporter. Un moment, il oublia tout. Les deux êtres dont il était aimé, les vastes projets de son esprit, le cadavre même qui bleuissait sous son regard. Une glaçante rafale d'isolement vint tournoyer dans cette chambre mortuaire embrumée de crainte. Il se sentit unique et pauvre, ainsi qu'il est écrit du Sabaoth terrible. Et il sanglota sur lui-même comme un enfant abandonné dans les ténèbres. Mais bientôt, l'épine de révolte aux noires fleurs dont il s'était transpercé de sa propre main renouvela ses élancements. Pourquoi une vie si dure? Pourquoi cette aridité invincible de l'humus social autour d'un malheureux homme? Pourquoi ces dons de l'esprit, si semblables à d'efficaces malédictions qui ne semblaient lui avoir été départies que pour le torturer? Pourquoi surtout ce piège à peu près inévitable de ses facultés rationnelles en conflit perpétuellement inégal avec ses facultés affectives? Tout ce qu'il avait entrepris pour la gloire de la vérité ou le réconfort de ses frères avait tourné à sa confusion et à son malheur. Les entraînements de sa chair les avait-il assez infernalement expiés? C'était fini maintenant tout cela. C'était très loin. C'était effacé par toutes les canoniques pénitences qui raturent la coulpe du chrétien. Le torrent d'immondices avait passé sans retour. Mais le vase de la mémoire avait gardé la lie la plus exquise d'anciennes douleurs, qui avait été presque sans mesure. Deux cadavres de femmes, naguère lavés de ses larmes, lui paraissaient étendus à droite et à gauche de celui de son père, et un quatrième, 100 fois plus lamentable, celui d'un enfant, gisait à leurs pieds. De ces deux femmes qu'il avait adorées jusqu'à la démence et dont il avait accompli le miracle de se faire aimer exclusivement, la première, arrachée à une étable de prostitution, était morte phtisique, après 2 ans de misère partagée, dans un lit d'hôpital, où le malheureux, n'ayant plus un sou, avait dû la faire transporter. Administrativement avisé du décès et voulant au moins donner une sépulture à la pauvre fille, il avait avalé, en l'absence momentanée de son ami, des vagues de bouffe pour trouver les quelques francs du convoi des pauvres, et il était arrivé 1 minute à peine avant l'expiration du délai réglementaire. Ce déplorable corps nu, jeté sur la dalle de l'amphithéâtre, éventré par l'autopsie, environné d'irrévélables détritus, suintant déjà les affreuses liqueurs du charnier, avait commencé, pour ce contemplatif dévasté, la dangereuse pédagogie de l'abîme.